Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel.
Donc Maïdar, c'est un ensemble, un groupe de professeurs, on est 7 professeurs, tous diplômés des plus grandes universités, et on propose des cours de religion sous des formats, on va dire, assez innovants. Donc on a 3 formules qu'on propose. Avec un suivi. Donc, on essaie de faire en sorte de mettre le paquet sur le suivi. Donc, ce sont des cours en ligne, ce sont tous en live. Donc, toutes les sessions qu'on a pu faire, c'est pas des cours enregistrés, mais c'est des cours en live, car on met en avant le suivi, mais avant tout l'interaction.
Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute.
Salam alaikum wa rahmatullah adillah.
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakat. Comment vas-tu?
Je vais très très bien, et toi, comment vas-tu?
Alhamdulillah, Allahumma lak alhamd. Très très bien,
alhamdulillah, ça fait plaisir. Je suis très heureux de t'accueillir.
Plaisir partagé.
On ne se connaissait pas avant qu'on nous mette en contact, mais ton nom était déjà passé, tu vois, souvent les auditeurs ou les personnes me recommandent des invités. Et puis ton nom était déjà passé plusieurs fois au cours des derniers mois, donc tu sais, quand on me recommande plusieurs fois les mêmes noms, je les mets de côté ou même une seule fois. Et je regarde quand j'ai un moment le travail qui est fait. Et machallah, du coup, j'ai regardé un peu ce que tu faisais. Tu es très présent en ligne et à travers, on en parlera plus tard, hein, ton organisme éducatif. Et donc, finalement, on a réussi à savoir et nous voilà pour l'interview.
Alhamdulillah, en tout cas, de m'accorder cette opportunité de pouvoir échanger avec toi, hein, avant tout ça. Un échange fraternel.
Pour commencer, je te propose de nous présenter qui tu es, d'où tu viens rapidement, ce que tu fais de manière générale, où est-ce que tu vis, est-ce que tu ne vis pas en France?
D'accord, effectivement. Donc, votre frère, Abdallah, Thiam, j'ai grandi en France. Hein. J'ai grandi en France, en banlieue parisienne, dans la banlieue ouest. Alhamdulillah, j'étais en France jusqu'en 2002. Donc, on va dire, voilà, j'ai une scolarité hein, un peu comme tout le monde, entre guillemets. Après, je me suis orienté un peu plus vers l'électricité. C'était mon domaine. J'avais trouvé ma vocation dans cette voie-là. Alhamdulillah. Donc, alhamdulillah, j'ai pu travailler dans de très grosses sociétés, je pense connues de tous les auditeurs, pendant à peu près 2 ans. Ensuite, voilà, il y a eu ce déclic, et là, entre guillemets, j'en ai marre de ce train de vie, et j'ai voulu apprendre. Donc, je suis parti apprendre. Donc,
début de vingtaine?
19 ans. 20 ans.
20 ans?
20 ans, 20 ans. 20 ans,
c'est quelle ville, tu vois, c'est la ville?
20 ans, Toron. Je suis à Trappes.
À Trappes,
je suis à Trappes, moi. 78 dans les Yvelines.
Ok, donc qu'est-ce qui se passe à 20 ans?
À 20 ans, le fameux déclic, on se pose plein de questions, un peu comme je pense beaucoup de nos auditeurs et auditrices des fois se posent. On essaie de revoir certaines choses, on passe en replay notre vie, notre train de vie, et on voit que voilà, il y a des choses qui peut-être ne nous plaisent pas, il y a des choses où on souhaiterait entre guillemets se lancer pleinement dans certains domaines. Ce fut le cas pour moi, donc j'étais très très frustré hein, moi, à l'idée de ne pas comprendre l'arabe, donc écouter un verset et ne pas comprendre l'arabe, c'était quelque chose de très frustrant pour moi hein. Je me rappelle encore une fois hein, quand j'écoutais Sourate Yusuf, donc j'étais dans les transports en commun un peu comme tout le monde hein, le matin j'allais au travail et j'écoutais le Coran, donc j'écoutais Sourate Yusuf. Et voilà, je savais que c'était quelque chose de beau que j'écoutais, mais je comprenais pas. Et c'était très, très frustrant pour moi. Et ça, c'était le vrai déclic. Hein. C'est là que ça a commencé, on va dire, ce magnifique voyage. Hein, parce que j'ai pas d'autres mots pour décrire ces années que j'ai pu connaître, alhamdoulilah, à travers, dans l'apprentissage. Et là a commencé ce magnifique voyage, ce très long voyage, auquel on demande à Allah Azzawajal de toujours rester dans ce voyage, dans ce rêve. Ce voyage avec, où il y a pas de retour. Donc le déclic il a commencé là, en 2000, oh là là, alors c'était 2003,
en 2003. D'accord.
2002 à 2003, c'était l'année de réflexion.
Ok, donc là tu as cette frustration qui grandit, quelle solution s'offre à toi à ce moment-là?
C'était simple en fait, moi je me connaissais, hein. Je me suis dit j'ai pas 36 chemins, soit je fais un peu comme tout le monde, je me lance dans l'apprentissage et c'est bien, certains ont fait en apprentissage, c'est-à-dire dans l'endroit où je suis hein, sans pour autant voyager hein. Ou soit je mets moi en immersion et moi je me connaissais, je savais que j'avais besoin de cette immersion, j'avais besoin de me déconnecter, j'avais besoin de tourner une nouvelle page, donc j'ai décidé de voyager à l'étranger. Je me suis dit il n'y a pas d'autre moyen que de que de voyager à l'étranger, et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est ce que j'ai fait en 2003. J'ai voyagé en étranger, donc je suis parti en Égypte. En Égypte, alhamdoulilah, j'ai fait un an, donc j'ai appris la langue arabe en Égypte. Donc, je ne connaissais rien, rien, rien du tout de l'arabe. Alors, quand je dis rien, c'est juste le mot salam alaikum. Alhamdoulilah, donc j'ai pu, Allah Azza wa Jalla m'a facilité, a mis sur mon chemin des enseignants qui étaient tout simplement exceptionnels, avec qui, alhamdoulilah, j'ai pu profiter. Et pendant toute une année, alhamdoulilah, qui était amplement suffisant. Quand je dis amplement suffisant, bien sûr, il n'y a pas de limite en soi, mais pour pouvoir se lancer dans l'apprentissage, pour pouvoir comprendre, avoir une compréhension des textes religieux et autres, alhamdoulilah, j'ai pu, durant cette année-là, atteindre les objectifs souhaités. Voilà.
Est-ce que tu étais en immersion totale? Tu parlais plus du tout français?
Je ne parlais plus français. Je me suis mis, alors, même quand j'étais avec mes camarades, hein, j'ai habité pendant un moment seul, j'ai habité avec des camarades qui nous ont rejoints de ma ville ou des villes voisines. Et c'était simple, hein. Si tu souhaitais cohabiter avec moi, il fallait parler arabe. Quand je dis fallait parler arabe, c'est-à-dire, tu te dois de t'efforcer à parler arabe. Donc, voilà. Tu ne connais pas un mot, tu te renseignes. Mais voilà, on s'est, au sein, dans l'appartement, ne parlait que l'arabe et pas une autre langue.
D'accord. OK. Et comment est-ce que tu t'organises pour ce voyage-là? Comment tu as décidé pour l'Égypte et comment en termes financiers, en termes de
Ah,
autour de
ça, c'est
toi,
une
comment
grande
les
question.
personnes ont
Alors.
réagi, etc. Comment tu t'es organisé pour ce départ?
Donc, moi, j'étais en CDI, hein. Donc, j'étais en CDI, dans une grosse société, l'une des plus grosses sociétés dans construction, hein, dans le bâtiment en France. J'étais en CDI, donc ils m'ont vraiment fait confiance, ils m'ont donné des postes très intéressants. Et ben, je les ai appelés pour leur dire que j'arrêtais tout. Donc, j'arrêtais tout, que je partais. Donc, je suis parti en Égypte avec quasiment rien. Quasiment rien, point de vue financier, quasiment rien. Alhamdoulilah, j'ai pu, alhamdoulilah, quand m'en sortir, c'était très limite, hein, c'était très limite. Mais pour autant, voilà, j'ai passé mes plus beaux jours, hein, je peux dire. Le nombre de fois où j'ai mangé de la viande, par exemple, ça se compte sur le bout d'une main durant cette année, d'une seule main. Et quand je dis la viande, c'est le poulet compris. Hein. Donc, alhamdoulilah, je ne dis pas ça parce que voilà, je me plaignais pas, hein, à ce moment-là. J'étais très, très bien. Je vivais les meilleurs jours de ma vie, j'étais seul. Pendant un moment, je me suis retrouvé seul. Je suis pas parti seul au début, mais je me suis retrouvé pendant un moment seul. Et après, voilà, on a bricolé. J'avais un ordinateur que en France, dans le temps, c'était un ordinateur portable. Il était très gros, mais bon, c'était quelque chose qui était bien. Hein. Je te parle en 2003. Hein. Donc, je l'ai vendu à une connaissance. Je lui ai demandé de m'envoyer simplement 100 euros par mois, d'accord, pour ne pas tout manger, parce que si on m'envoie la somme, c'était à peu près 1100 euros, 1100 euros. Et voilà, j'ai vécu comme ça. Donc, avec à peu près 100, 150 euros par mois, je payais les écoles et mon loyer avec cette somme et je mangeais, voilà, très, très, très léger. Mais alhamdoulilah, c'était très, très bien. C'était vraiment très, très bien. C'est ce que je souhaitais, être en immersion. Et puis voilà, alhamdoulilah, franchement, c'était un très beau jour. Après, il y a eu plein d'aventures, mais je pense que si je commence à entrer en détail de tout ce que j'ai. Comment dire, tout ce qui m'est arrivé là-bas, les très belles reconnaissances que j'ai fait, subhanallah, la grandeur d'Allah Azza wa Jalla, comment Allah Azza wa Jalla m'a facilité. Je pense que c'est un podcast en plusieurs épisodes si on veut être, si on veut aller dans les détails. Mais alhamdoulilah, franchement, dans tout, dans l'apprentissage, j'ai trouvé une facilité qui est incroyable. Au début, c'était très dur, hein, pour apprendre 10 mots. Je me rappelle, j'ai mis toute une après-midi. Peut-être certains de nos auditeurs, nos auditrices aujourd'hui, pour apprendre 10 mots, vont peut-être mettre 1 heure, allez, maximum, peut-être maximum 1 heure. J'ai déjà sondé certains de mes élèves, je leur ai posé la question, ils me disaient 10 minutes, 15 minutes, allez, pour apprendre Bortoukhal, Timser, et ainsi de suite, des petits mots. Moi, j'ai passé toute une après-midi pour apprendre 10 mots. Et donc, c'était des buts qui étaient très durs, mais c'est comme ça, voilà. C'est pas parce qu'on rencontre une difficulté qu'on doit s'arrêter ça. Si on doit tirer une leçon de cette histoire-là, et que je souhaite partager avec nos auditeurs et nos auditrices, c'est que l'apprentissage, ça demande de la patience. Et c'est sûr qu'on va rencontrer de la difficulté, ça c'est sûr. Mais il faudra, voilà, être patient, sincère et persévérer.
D'accord. J'avais demandé de nous partager un enseignement, mais c'est chose faite. Alhamdoulilah. Donc à l'issue de cette année, tu savais d'avance où tu allais, ce que tu voulais faire après,
Non,
qu'est-ce qui
du
se
tout.
passe à...
Non, du tout. Comme je t'ai dit, encore une fois, ce voyage-là en Égypte, il était merveilleux, il était magnifique. J'ai quasiment pas de mots pour décrire ce voyage-là, hein, malgré que si je devais comparer, voilà, c'était une vie qui, comme c'était très dur, hein, c'était très dur. Les conditions de vie étaient assez difficiles. Mais subhanallah, donc, je sors d'une mosquée Et je rencontre une personne qui nous parle en français. Donc souvent, on trouve les Égyptiens qui ont appris en LV2, en deuxième langue, le français. Donc on voyait souvent des Égyptiens essayer de parler avec nous en français. Mais cette personne, elle avait une particularité, c'est qu'elle parlait très bien français. Et ça, j'étais avec un ami à moi et on était très étonnés. Il nous a interceptés à la sortie de la mosquée avec un très bon français et nous disant, voilà, je serais ravi que... on partage ensemble un déjeuner. Je lui dis OK. Donc, suite à ça, on a déjeuné ensemble et il me dit, bah, c'est simple, dites-moi ce que vous souhaitez. En gros, ce que vous souhaitez, que ce soit de l'argent, que ce soit, dites-moi ce que vous souhaitez. En fait, cette personne-là, c'était un ancien ministre qui était très connu, qui est décédé aujourd'hui, qu'Allah Azzawajal lui fasse miséricorde. C'était un ancien ministre dans un autre pays, hein, pas en Égypte, mais en Égypte, il était à la tête d'une organisation et il avait plusieurs bureaux, y compris en Arabie Saoudite. Il nous a interrogé donc sur ce qu'on souhaitait. Moi, je lui ai dit tout simplement que je souhaitais aller en Arabie Saoudite pour aller étudier, car j'ai entendu que là-bas, voilà, les études étaient très bien, c'était structuré. Et moi, j'aime bien, hein, quand il y a une structure. J'ai besoin de ça, d'un cadre. À ce moment, eh bien, il me dit, bah, c'est très simple. Voilà, je passe demain dans mon bureau et on remplit les papiers ensemble. Ce fut le cas. Donc le lendemain matin, je me suis rendu dans son bureau et là, il me propose deux dossiers. J'avais le choix. Soit je choisis l'université de Médine ou l'université de La Mecque. Alors, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui,
Ah, donc, avant de parler de ce
oui.
choix-là, on va faire
Oui.
tenir nos auditeurs en haleine.
Ah.
Pourquoi est-ce que cette personne-là a décidé de vous aider comme ça?
Je sais pas. Très bonne question. Franchement, cette personne-là, je sais pas. En tout cas, comme réseau de la récompense, elle a vraiment tenu à nous aider.
Vous la
Je
connaissiez
sais
pas
pas,
avant,
peut-être
c'est
que,
comme ça du
non,
jour.
du tout, du tout. Alors, moi, j'ai su c'était qui. J'ai su c'était qui, allez, 10 ans après. Cette personne-là,
Waouh.
j'ai jamais. Ah oui, 10 ans après. En fait, quand j'ai visité même sa maison, il avait des photos avec des très grandes personnalités que je ne veux pas mentionner maintenant, mais bon, c'était vraiment quelqu'un qui était connu. Et là, moi, j'ai su que c'était quelqu'un qui était connu, mais voilà. Je n'ai pas cherché à savoir vous êtes qui, vous faites quoi dans la vie. D'ailleurs, je ne lui ai jamais posé la question. Je l'ai rencontré 3, 4 fois et je ne lui ai jamais posé la question, qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie? Qu'est-ce que. Non, jamais. Voilà. J'ai vu que c'était quelqu'un qui voulait faire du bien. Et vraiment, c'est voilà. Et c'était ça ma requête. J'avais que ça comme requête. Et alhamdoulilah, et il
Il
nous a
savait que vous
vraiment
étiez
aidés.
des étudiants.
Oui, il s'est renseigné. On dit, nous, on est venu étudier. On est venu de France. On est venu étudier la langue arabe. On est venu pour ça. Et puis voilà, il a su ça. Et il a voulu nous aider. Il a voulu nous aider. C'est vrai que subhanallah, il était très engagé, très engagé. Donc dans ça, donc alhamdoulilah, moi, j'ai pu me présenter donc à lui pour le choix de l'université.
Vous étiez
Et les choix de
sociable,
l'université.
vous? Vous étiez très
Pardon?
sociable, c'est-à-dire vous parliez beaucoup, avec les gens en Égypte, ou vous étiez un peu introverti dans votre coin?
Alors, moi, je suis de nature, on va dire, assez sociable. Je suis pas quelqu'un qui va peut-être forcément faire le premier pas, mais je suis quelqu'un qui est assez sociable. C'est-à-dire, il suffit que tu commences à échanger avec moi, que tu vois que, voilà, il y a possibilité d'échanger. Je suis pas du genre fermé où je te fais comprendre qu'au bout de la deuxième question, voilà, tu pèses un peu et voilà, j'ai pas envie d'échanger. Non, non. Je suis quelqu'un, on va dire, qui est, voilà. Je vais pas souvent faire le premier pas, mais si je discute avec quelqu'un, voilà, je peux tenir une discussion sans aucun problème. Je
D'accord.
prends pas. Voilà, ça.
Ok. Donc revenons à ce choix entre la Mecque, l'université de la Mecque et de Médine.
Effectivement. Donc là, il m'a présenté deux dossiers. Un dossier où, composé d'une seule page A4 et un autre dossier de 2 pages A4. Donc, bon, j'étais vers la facilité, hein. Donc j'ai choisi l'université où il fallait remplir qu'une seule feuille. Ce fut l'université de La Mecque. Tout simplement, enfin, on me pose la question, pourquoi je suis venu à La Mecque? Simplement parce que c'était plus rapide à remplir la feuille. Et c'est vrai, dans le temps, c'était même pas une feuille A4, hein. C'était la moitié d'une feuille A4 à remplir. Et en bas, il y avait les conditions pour pouvoir rejoindre l'université. Donc, j'ai fait ça, alhamdoulilah. Et puis, voilà, mon dossier a été poussé. Il a été présenté, hein, d'après des dires ici. Des personnes m'ont dit que, voilà, le dossier a été présenté en main propre au doyen au doyen. Voilà, j'ai eu une acceptation qui était assez rapide dans le temps. Enfin, il y avait une attente de 2 heures. Et là,
C'est tout.
de 2 heures, excusez-moi, de deux
Ah.
ans.
2 ans, oui, 2 heures.
Et, ouais, non, c'est pas 2 heures, non, de
D'accord.
deux ans.
2 ans quand même.
Deux ans, oui, c'était ça, le temps d'attente. Et moi, j'ai attendu peut-être 6 mois. Donc, c'était très rapide.
Ah, le temps moyen, c'est 2 ans et toi, tu l'as eu au bout de 6 mois. D'accord.
Au bout de 6 mois, j'ai reçu le visa et je suis parti après. Mais après, je suis
Et toi,
parti à La
tu,
Mecque
en
à la
attendant,
Sarkozy.
toi, tu espérais, ou t'avais laissé de côté un petit peu.
Ah, j'avais complètement oublié, hein, tout simplement. Moi, j'ai reçu
En
une
général,
lettre
c'est
à la
ça. Hein.
maison. Hein.
C'est des écoles comme ça. Tu
Ouais.
postules et tu oublies parce que tu sais jamais
Exactement.
dans
Tu
tellement de
postules, tu
temps.
oublies, tu fais ta vie, et puis voilà. Et j'ai
Ok.
reçu une lettre à la maison m'informant que je suis accepté à l'université de la Mecque. Donc là, voilà, le voyage a commencé. Je suis rentré en France. J'ai
T'es
fait les
rentré en...
vacances.
T'étais déjà rentré en France? Non, pas encore.
Non, non, j'étais encore en Égypte, là.
Ok.
Là, j'étais encore en Égypte. J'ai reçu le billet. Le lendemain, quasiment, j'étais en France. J'ai fait toutes les démarches et puis voilà, je suis parti à
Vous
la
êtes
Mecque.
content là, le jour où t'as appris
Ah
ça.
oui. Ah oui, très heureux. Je peux dire, hein. Dès que j'ai reçu la nouvelle, j'ai pris un taxi. Je suis parti au centre-ville, dans une agence de voyage. Dans le temps, ce n'était pas sur Internet, hein. Dans une agence de
Ouais.
voyage pour acheter mon billet. Et puis voilà.
Et en
Et
plus,
je suis rentré
j'imagine
en
que
France.
t'étais déjà vers la fin de ton budget pour l'Égypte ou un truc comme ça, non, à ce
Oui,
moment-là.
là, c'était vraiment là. C'était très, très juste, là, ça y est. Mais avec, il n'y avait plus rien, là, ça y est. Il n'y avait plus rien, là. On avait touché le
Leur dit
fond.
ça y est. Alhamdoulillah, Jidan.
On était très heureux. Hein. J'étais très, très heureux. Moi, j'ai passé les plus beaux jours, hein, de ma vie, hein, en Égypte, malgré que voilà, c'était vraiment, comme on dit, serrer la ceinture. Il n'y avait même plus de trous. Il fallait faire des trous dans la ceinture pour la serrer. Mais alhamdoulillah, franchement, je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Au
Donc tu
contraire.
rentres en France quand même, parce que
Quand en France,
faut
donc
se
je fais les
préparer.
papiers, ensuite, voilà, je me prépare. Je vais à la Mecque. Je suis le premier élève qui arrive à la Mecque, tellement que j'étais pressé. J'ai réussi à avoir le visa rapidement. Donc, je suis le premier élève qui arrive à la Mecque. Hein, donc, on m'accueille là-bas. Et puis voilà. Je commençais mon cursus. Donc là, je vais te résumer le cursus parce qu'il est très long. Donc, j'ai fait
Ouais.
l'Institut de langue à la Mecque. Ensuite, je suis rentré dans la faculté de jurisprudence, Sharia. D'accord. Ça, je suis rentré en 1427, c'est-à-dire en 2006, 2006-2007. Je suis
OK.
rentré en faculté de jurisprudence. J'ai terminé la faculté. Ensuite, j'ai basculé en master. D'accord. J'ai fait mon
Faculté, c'est quoi? C'est
master.
une sorte de licence?
C'est une licence, ouais, en 4 ans. Licence en 4 ans. Ensuite, j'ai le master, le magistère. C'est un master recherche, donc avec une thèse. Là, j'ai fait 5 ans mon master,
D'accord.
avec une thèse qui était sur. Bon, moi, je suis un peu spécialisé, on va dire, entre guillemets, hein, si on peut dire cela, dans tout ce qui touche aux pays, les pays à minorité musulmane, ce qu'on appelle l'aqaliyat. Donc, mes
Ouais.
deux thèses, moi, ont porté sur ça. La première thèse en master sur les règles de la jurisprudence et les effets sur les questions qui sont liées aux pays à minorité musulmane. Donc, on a
Super
énormément
intéressant.
de questions
Ouais.
qui nous touchent, voilà, qui nous concernent. Et on a des règles de la jurisprudence. Parmi les règles connues que tout le monde connaît, quand on dit ad-darurat, tubih al-mahdurat, lorsqu'on dit qu'en cas de nécessité, l'interdit devient permis, d'accord? Donc, ça, c'est une des règles, par exemple, de la jurisprudence de Qawaid al-fiqhiyya. Ben voilà, donc en fait, j'avais cette relation avec ces règles et la relation entre les règles et toutes les questions à minorité, parce que malheureusement, des fois, ces règles sont utilisées, c'est un peu, voilà,
Ces règles sont
c'est double
utilisées
tranchant.
simplement, tu disais, pardon?
Ben, des fois, elles sont mal utilisées, ces règles.
Ouais,
Donc, ces
d'accord. Par
règles-là, ouais,
exemple?
elles sont très mal utilisées. Ben, l'exemple connu, hein, de la fatwa, qui est la fatwa phare aujourd'hui,
Ouais.
qui est est-ce qu'on a le droit de faire un crédit, voilà, pour acheter une maison. Donc, cette fatwa qui est connue, qui est sortie d'un comité qui est connu, et se repose sur 2 points. Et l'un de ces points, dans l'un de ces points, on retrouve la règle, al-qaïd al-fiqhiyya, qui est ad-darurat tubih al-mahdurat. Oui, ils ont utilisé que, donc, en cas de nécessité, l'interdit devient permis. D'accord? Et l'exemple qui est connu, c'est l'exemple qui est mentionné dans le Coran. Quand Allah Azzawajal nous parle de al-khinzir, nous parle de manger le porc, et nous dit que famanu tourra ghayra barin wala adin, quant à celui qui en cas de en, qui se trouve en cas de nécessité, hein, donc on donne l'exemple de celui qui va se trouver dans le désert, qui n'a pas de quoi manger, là il a le droit de consommer de la viande de porc, c'est permis. Pourquoi? Car il est dans un cas de nécessité. D'accord, ça c'est une règle, c'est ce qu'on appelle une règle des qawaid al-fiqhiyya. Donc c'était ma thèse, à porter sur tout l'ensemble de ces règles, elles sont nombreuses,
D'accord.
l'ensemble de ces règles qui vont. Donc là, par rapport à notre question de la fatwa phare, là oui, ça ne colle pas. Pourquoi? Parce qu'une personne a toujours la possibilité de louer. Aujourd'hui, on n'est pas propriétaire, certes. On rêverait d'être propriétaire. Certes, c'est un rêve, OK? Mais en soi, on a la possibilité de louer. Donc, on ne se retrouve pas dans un cas de nécessité. Et le cas de la nécessité, en soi, c'est vraiment lorsque ta vie, voilà, ta vie voilà, est engagée, ou bien que tu risquerais comment dirais-je, de perdre un membre. ou de te trouver dans une situation d'handicap. Ça, c'est un cas de nécessité. Dans le cas contraire, on n'appelle pas ça un cas de nécessité. D'accord? La personne qui est dans le désert, effectivement, il risquerait de tout simplement mourir. Donc là, il est dans un cas de nécessité. Donc voilà, ça, c'est un exemple hein, parmi tant d'autres concernant ma thèse, master. Ensuite, après cette thèse, donc j'ai validé un doctorat. J'ai fait un doctorat, pareil, sur 5 ans. Et toujours spécialisé dans la jurisprudence, avec toujours cette spécialité sur les pays à minorité musulmane, de manière générale, voilà, l'Europe, hein. Et donc là, la thèse de doctorat, elle a porté, par contre, sur une analyse. L'analyse de la méthodologie de deux grands comités qui sont connus. Un très grand comité qui est en Europe, qui est connu, et un second qui est aux États-Unis. Donc, c'est les deux gros comités, on va dire, les deux plus grands comités en Europe.
Amja,
Et
je crois, aux États-Unis, un truc comme ça.
AMJA, exactement, AMJA, voilà, qui est dirigé par Salah Saoud. Donc, c'était une comparaison entre la méthodologie de AMJA et celle du Majlis al-Europi, comité européen de la fatwa. Et dans leur méthodologie, quelle est leur approche, tout simplement, lorsqu'ils analysent, lorsqu'ils étudient une question juridique, lorsqu'ils étudient une nazila, une question qui est nouvelle, quelle est leur méthodologie, tout simplement. Donc, c'est une thèse qui est assez longue. Et j'ai pu faire voilà des on va dire des comparaisons entre ces deux gros comités et sur plusieurs questions sur avec plusieurs critères hein, sur le niveau de la liste, on appelle les listes de l'aile hein, les preuves qu'ils vont utiliser leur méthodologie, c'est-à-dire lorsqu'ils abordent une question, est-ce qu'ils commencent par quoi? Est-ce qu'ils commencent par faire le schéma basique qui est de regarder est-ce qu'il y a une preuve dans le Coran, dans la Sunna? Est-ce qu'il y a un consensus des savants? Est-ce qu'on a une parole de certains compagnons? Et ainsi de suite. Donc voilà, c'est une étude qui il y a une partie qui était sur ça. Après, il y a une autre partie où certains comités vont être des fois un peu plus larges sur certaines questions, enfin, certaines questions, certains fondements, si on peut dire ça, que d'autres. Voilà. Que d'autres. Donc voilà, ensuite, donc j'ai validé ça il y a plus d'un an et demi, hein, plus d'un an et demi, bientôt 2 ans, mon doctorat. Et voilà, ça c'est mon cursus niveau de ma formation, si on peut dire cela.
J'imagine que tu as suivi ce sujet pour avoir une science qui soit utile pour voilà, ton pays d'origine
Exactement,
et
exactement.
pouvoir
Toujours, oui,
aider,
ce
quoi.
n'était pas anodin, hein. Ce n'était pas anodin, c'était vraiment pour essayer d'apporter ces petites pierres, on va dire, à l'édifice, essayer de contribuer à notre manière, à notre échelle, à aider nos frères et sœurs musulmans et musulmanes qui vivent dans ces pays-là. Donc, moi, j'ai vécu là-bas, j'ai grandi là-bas. J'ai jamais été coupé. Chaque année, je suis en France pour voilà, un mois, 2 mois, un peu plus, un peu moins. Donc, je suis jamais coupé, on va dire, jamais été voilà, coupé de ce milieu, de ces pays. Donc, voilà.
On consulte régulièrement sur ces questions-là, justement de
Oui.
l'Arqaliyé, donc les situations en
Oui,
France, qu'est-ce qu'on peut faire,
bien sûr.
etc. Oui.
Oui, j'ai reçu, oui, bien sûr, donc plusieurs fois. Après, on a plein de questions, des questions qui touchent dans l'ordre de l'adoration, la purification, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, le commerce. On a plein de questions qui viennent, sont moi souvent sollicitées par rapport à ces questions-là, oui. Souvent
Est-ce qu'il y a
sollicitées.
des questions qui reviennent vraiment,
Après, on a toujours les questions phares. Hein. Oui, comme je dis, les questions phares. Hein. Les questions phares, tu vas commencer. Donc, dans la prière, ça va être le fameux, quand en été, je sais pas, tu es de quelle zone toi exactement, Abdelrahman, mais en été, on a cette problématique où l'Aïcha, il est très tard. Est-ce que je peux regrouper le Maghreb et l'Aïcha, par exemple? D'accord. Ça, c'est au niveau de la prière. Ça, c'est les questions qui sont vraiment phares, les questions qui sont, on va dire, répétées. Pour le jeûne, on a toujours le problème des calendriers. Donc, sur lequel je me base, j'ai 3 mosquées autour de moi, un qui se base sur tel calendrier, sur tel calendrier. On va avoir après dans tout ce qui, encore une fois, comme je dis, tout ce qui est le relationnel, donc, Mu'amalat, cette question, encore une fois, de l'emprunt, est-ce que je peux emprunter? On va avoir cette question dans la zakat, est-ce que je peux déduire mes impôts, par exemple, de la zakat, les impôts que j'ai impayés, est-ce que je peux les déduire de la zakat? Après on a les questions basiques, je l'appelle basiques, voilà, qui sont présentes dans les pays à minorité, mais aussi dans d'autres pays par rapport au mariage, d'accord, par rapport aussi au divorce. Alors, on a toutes les fameuses questions qui vont se poser, hein, et ça c'est voilà, c'est une problématique qui est présente dans le monde. Et voilà, et ainsi de suite. Donc on a certaines thématiques qui elles ressortent, qui ressortent souvent.
Toutes ces questions-là, elles sont assez. Toi, tu les trouves assez simples à gérer ou elles font toujours débat, c'est pas des questions, on a des réponses claires encore.
Bah, c'est des questions en fait qui sont assez difficiles, et ça, c'est la nature de Nazila. C'est-à-dire que Nazila, qu'on peut traduire par les questions qui sont nouvelles, les quatre circonstances qui se présentent à nous, qui auparavant n'étaient pas présents, ou bien n'étaient pas présents sous cette forme. On a des cas qui étaient, voilà. Par exemple, le fait de regrouper la prière entre le Maghrib et le Isha, c'est pas quelque chose de nouveau en soi, c'est quelque chose qui était présent. Mais dans le contexte dans lequel on est, d'accord? Avec la problématique qu'on a, que l'Isha va jusqu'à 23h30, minuit, hein, en été, et l'Fajr, qui est à 4h du matin, d'accord? Pour certains, même des fois, même plus tôt. Donc, on a ce contexte-là qui vient se présenter, qui vient ajouter cette. Voilà, à ce qui est assez compliqué. Donc là, nous, la démarche va être de revenir, bien sûr, sur les textes et les analyser. Et les savants vont diverger au niveau de la compréhension, bien sûr, des textes. Hein. Donc, certains vont prendre le hadith de Ibn Abbas, qui évoque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à regrouper, hein, entre le Dhuhr et le Asr, si je ne me trompe pas, hein, sans raison particulière, ni de peur, ni de suite à la pluie, et que dans cette version, il est dit que c'était le prophète a fait ça pour ne pas mettre voilà, sa communauté dans la gêne. Eh bien, on va analyser ça. Est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam peut se baser sur ce hadith-là pour dire qu'en soi, tout ce qui ne fait pas partie de l'ardhar al-shar'iyya, donc les raisons, on va dire, religieuses, hein, qui sont connues, la maladie, le voyage, la peur, d'accord, c'est les causes, la pluie, donc c'est les causes qui sont connues pour pouvoir regrouper à la base. Taïb, autre que ces causes-là, est-ce qu'on peut voilà, être un peu plus souple et élargir et dire voilà, le fait que le lendemain, peut-être, on travaille, que le lendemain, on a des cours, qu'on risquerait de voilà, perturber notre sommeil, ceci, cela. Est-ce que c'est une raison soit valable pour se dire qu'on regroupe, hein, par exemple, hein. Bref, pour apporter un petit plus à nos auditeurs et nos auditrices, moi, ce que je réponds par rapport à ça, c'est qu'on a le droit de regrouper, mais par contre, attention, on le fait vraiment de manière ponctuelle. C'est-à-dire, si j'ai enchaîné 2 semaines, 3 semaines, et c'était voilà, très difficile, et là, je commence à arriver sur les rotules, je commence à être très fatigué, je ne tiens pas. Il n'y a aucun mal que tu pries le Maghreb, et ensuite tu pries l'Isha, et tu vas te reposer. Mais de faire en sorte que, dès que l'été approche, je me mets en mode de jam'a, d'accord, j'active le mode regroupement, ça non, d'accord, on reste à la base sur les horaires qui sont définis. Allah Azza wa Jalla dit, "Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta." Allah Azza wa Jalla dit que la prière a été décrite aux croyants à des moments bien précis. Donc on se doit de respecter ça. Voilà, concernant les questions, les
Très bien.
redondantes.
Très bien. Et toi, de ce que tu vois, en fait, tes contacts avec la France, est-ce que tu vois que les gens sont intéressés à toutes ces questions-là, c'est-à-dire qu'ils cherchent vraiment à se renseigner auprès de personnes compétentes? La majorité passe par là, ou bien ils essaient de trouver leurs réponses par eux-mêmes, elles font leur propre, entre guillemets, ijtihad, ou leur propre réflexion, raisonnement. Selon toi, c'est quoi la situation actuelle des musulmans concernant
Alors,
ce genre de sujet?
oui, tout à fait. Les musulmans, alors, on a ce qu'on appelle cet éveil, hein, cet éveil de la Dawa actuellement, et on peut pas le nier. Donc, les musulmans sont assez sensibilisés sur certaines questions, même si, bon, on a aujourd'hui, certaines technologies, voilà, les réseaux sociaux et autres, qui, des fois, des fois, je dis bien, des fois, n'ont pas arrangé la situation. Mais de manière générale, les musulmans sont assez sensibilisés sur des questions, les questions basiques, les questions autour de l'adoration. Ça, c'est mon ressenti à moi, hein, à travers les échanges que j'ai pu avoir avec certains musulmans, des amis et de l'entourage, qu'ils s'intéressent à ces questions. Ils cherchent à avoir une réponse. Même si ils vont interroger sur Google, souvent, ils ne trouvent pas, voilà, des réponses qui, ils trouvent des réponses des fois qui sont contradictoires, ils ne trouvent pas une réponse qui est assez claire, d'où, voilà, ils prennent les sessions et la démarche de consulter, d'interroger, de poser des questions à d'autres personnes. Donc oui, je suis souvent sollicité dans ce là, et je peux dire que voilà, les musulmans, il y a cet éveil de la dawa qui est toujours présent, alhamdoulillah, et c'est un bien, il faut profiter de cet élan, profiter de ce moment-là pour essayer de proposer des contenus aux musulmans, pour essayer de les accompagner, pour essayer de les aider à cheminer spirituellement et aussi au niveau de leur dans la religion, c'est important. Donc, moi, je vois que, alhamdoulilah, il y a une certaine, voilà, les musulmans sont assez sensibilisés par rapport à les questions qu'on vient d'évoquer.
Très bien. Donc, revenons à ton parcours. Donc, tu étudies pendant, alors, tu fais 1 an de langue arabe, puis 4 ans de faculté, puis 5 ans de master incluant une thèse. Donc là, on est déjà à 10 ans. En parallèle, tu travailles ou un petit peu, ou
Alors,
tu as une bourse. Je crois qu'ils donnent une bourse, hein, mais elle est assez petite.
oui. Alors, dans le temps, oui, on a une bourse qui est assez petite, hein, qui généralement ne suffit pas. Hein. Donc, oui, en parallèle, bon, du fait qu'on est à la Mecque, on a, pendant des années, baigné dans l'accompagnement religieux par rapport au Hajj et à la Umrah. Donc, j'ai baigné pendant des années, j'ai travaillé pour les plus grandes agences, hein, dans le temps, hein, dans les plus grandes agences en France, jusqu'à même, hein, lancer ma propre agence. Hein. Et a organisé Hajj Omra, ben le dernier qui était avant le remaniement, avant le Covid, le 2019, et qui s'est d'ailleurs très très bien déroulé. Donc voilà, c'est ça notre activité, on va dire notre activité en soi, hein, à part les études, on a accompagné les pèlerins et les mu'tamirines, ceux qui venaient faire la Omra. Et voilà, donc on prenait notre petit billet, on va dire, en contrepartie de temps. Donc ça nous a permis aussi, bien sûr, à vivre ici. Donc je travaillais pas, hein, j'étais vraiment ici. Quand j'étais ici, je ne travaillais pas, si ce n'est que voilà, dans l'accompagnement, dans le Hajj de la Umrah. C'est très bien comme ça, parce que c'est vraiment une opportunité pour la da'wa. Et la Mecque, du fait que c'est le lieu où on rencontre tout le monde, alhamdoulilah, j'ai pu faire de très très belles connaissances et profiter, j'ai pu profiter, j'ai pu essayer de partager, on va dire, de donner cette petite zakat, hein. Cette petite zakat annuelle que les étudiants se doivent te donner. Donc, on a pu la faire, alhamdoulilah, depuis qu'on est à la Mecque. Et bien sûr, à chaque fois qu'on rentrait en France en été, voilà, on a pu, alhamdoulilah, avec la mosquée, la grande mosquée de ma ville, organiser des séminaires chaque année. Et on a fait, voilà, de très, très beaux séminaires qui ont permis de faire des découvertes, de très belles découvertes par rapport à des étudiants qui sont partis d'ailleurs étudier par la suite. Voilà, c'est tout. Et ça, ces séminaires, ça a commencé en 2007 jusqu'en 2018. Hein. Non-stop chaque année, alhamdoulilah.
Donc, ces études-là là, que tu as suivies, tu as fini en 2013, 2014?
J'ai fini. Alors non, tu rajoutes ensuite les 5 ans de doctorat. Hein. On n'a pas ajouté doctorat.
Ah, il y a le doctorat après. D'accord, c'est pas
Ah
fini
oui,
après le
cinq
master.
années. Après le master, il y a eu le doctorat. 5 années aussi. Cinq années. Donc,
C'était quel sujet?
c'est sur ce que je t'ai dit, je t'ai mentionné la comparaison. En fait, j'ai eu,
Ah,
enfin, je t'ai
d'accord.
évoqué, moi, deux thèses dans. Je t'ai évoqué deux thèses. Enfin, on a eu à la première les. Donc les fondements les règles de la jurisprudence avec les relations questions qui sont liées puis à la minorité musulmane, ça c'est en master. Et en doctorat, c'était la comparaison entre les deux comités de la fatwa,
D'accord, mais
européen et
je vois. OK.
États-Unis. Ouais.
Donc 2018,
Donc,
là tu termines complètement.
voilà, on va dire ça sans compter les petites pauses que j'ai dû prendre, hein, pour x ou y raison, mais on va dire officiellement je terminais, on va dire 2000 2000, début 2022, officiellement, on va dire, quand j'ai tout terminé, que j'ai fait ma soutenance, d'accord? Parce qu'après, quand on termine la thèse, on a toujours un battement, un temps d'attente et autres. Donc, on va dire, soutenance terminée, début 2022.
D'accord, ok. Donc là, maintenant, tu es toujours installé en Arabie Saoudite, à
Toujours en Arabie
Mecca.
Saoudite.
Tu
Ouais,
comptes y
toujours en
rester.
Arabie Saoudite. Inch'Allah.
Alors, qu'est-ce que tu y fais maintenant que tu as fini tes études? En plus, tu as commencé sur d'autres projets il y a quelques années déjà, hein, c'est
Exact.
pas maintenant. Est-ce que tu peux nous dire un
Exact.
petit peu ce que tu fais?
Alors, on va dire que je suis actuellement sur trois projets. Donc, le premier projet qui est le premier bébé qui a vu le jour en 2020 pendant la période de Covid, qui est Maïdars, donc l'institut Maïdars. Cet institut, on a voulu lancer un institut, mais qui respecte ou qui, on va dire, met en avant certaines valeurs et des objectifs bien précis. Qu'on a pu régler aussi à la fois quelques problématiques qu'on a pu remarquer dans les cours en ligne. Donc Maïdal, c'est un groupe de professeurs. On est 7 professeurs, tous diplômés des plus grandes universités, et on propose des cours de religion sous des formats, on va dire, assez innovants. Donc on a trois formules qu'on propose, avec un suivi. Donc on essaie de faire en sorte de mettre le paquet sur le suivi. Donc, ce sont des cours en ligne, ce sont tous en live, nos cours. Toutes les sessions qu'on a pu faire, c'est pas des cours enregistrés, mais c'est des cours en live, car on met en avant le suivi, mais avant tout l'interaction. L'interaction, on en a fait l'une des l'une des, comment dirais-je, l'un des points, l'une de nos valeurs à nous, hein, l'interaction dans le cours avec l'élève, car les cours sont à distance, et on a voulu vraiment essayer de retirer cette barrière qui peut avoir, qui peut être présente entre le professeur et l'élève, avec voilà un suivi. Chaque cours sont des cours qui sont aussi disponibles en replay, avec un questionnaire, avec un PDF qui est présent à chaque fois. Mais avant tout, c'est avant tout le corps pédagogique, les professeurs qui sont investis et qui donnent tout pour l'enseignement de leurs professeurs, de l'enseignement de ces matières. Donc, on a les matières qu'on a appelées MAI. Ces matières-là, c'est qu'on souhaite se spécialiser. D'accord, c'est 3 heures par semaine. Donc, c'est un concept qui est particulier parce qu'on a 2 heures de cours et on a 1 heure de révision. Car nous, on ne veut pas simplement avancer pour avancer. Non. On veut avancer et s'assurer que les élèves aient assimilé et voilà, qu'ils aient compris le cours. Et on a pu tester cette méthode et on a vu qu'elle était très bénéfique, hein. J'ai personnellement fait un examen, on va dire, surprise à mes élèves. Et voilà, le résultat, c'est qu'ils ont tous eu de très bonnes notes. Car on a les cours et on a à la fois la révision. La révision, cette heure de révision, elle est très bien parce que c'est l'heure, c'est 1 heure, comme je le dis, moi, c'est 1 heure qui appartient à l'élève. Donc, c'est là où on ouvre la discussion. L'élève va discuter avec le professeur, on va échanger sur le cours, on va revenir sur le cours, on va corriger le questionnaire, on va épurer ensemble et voir le questionnaire de suivi, parce qu'on a un questionnaire qui est suivi pour chaque semaine. L'élève remplit un questionnaire de suivi, voilà, pour s'assurer et voir l'évolution de l'élève. Donc ça, ce sont les matières, matières à point, différentes formules qu'on a à MyDAS. On a la matière à la carte, qui elle, c'est 1 heure par semaine, car quand on a fait, a lancé un questionnaire avant le lancement de l'Institut, et on s'est rendu compte que 42% des personnes sondées ont dit qu'ils étaient prêts à donner que 1 heure par semaine pour apprendre leur religion. Donc on a fait ce programme-là pour eux. C'est l'un des programmes qui, voilà, où on a le plus d'élèves d'ailleurs. C'est l'un des programmes où on a le plus d'élèves, les matières à la carte. On a 7 matières, d'accord? Donc on va avoir le tafsir, le hadith, la aqida, le fiqh, la sira. On va avoir une matière dédiée aux femmes qu'on a appelée pour elles, d'accord? Avec une professeure femme. Et on a une matière aussi qui est 100% dédiée aux adolescents, eux, hein, qu'on a appelée pour elles, ados. D'accord? Donc ça, c'est les différentes matières qu'on a au sein de l'Institut. Alhamdoulilah, depuis 2020, alhamdoulilah. Voilà, de bouche à oreille, de fil en aiguille, on commence à se faire un peu connaître. Et voilà, on a un très bon taux de satisfaction de la part des élèves. Alhamdoulilah, très beau retour. Très, très beau retour.
Ok. Et
Donc, ça,
l'objectif
c'est.
derrière, vous avez le type de personnes que vous voulez former, si vous avez un objectif derrière, une mission, c'est l'enseignement de
Alors.
manière générale ou...
Nous, on a plusieurs objectifs par rapport à ça. C'est-à-dire, ce qu'on vise, nous, on vise, nos programmes, ils visent tout le monde. Nos programmes, ils visent tout le monde. D'accord? Donc, c'est les premiers qu'on a, le programme de base qu'on a, ça vise vraiment tout le monde. Quand je dis tout le monde, ça peut être une personne qui est débutante, comme une personne aussi qui a des notions, comme une personne qui est, entre guillemets, assez avancée. Parce que dans les matières aussi qu'on propose, on a une formule qu'on a appelée My Usul. Et cette matière-là, elle s'adresse, voilà, à ceux qui connaissent l'arabe, qui souhaitent apprendre la religion en arabe, mais avec un arabe qui est quand même assez adapté pour un public francophone. D'accord? Donc, on a cette matière qui est présente, qui est enseignée par le professeur Najib. Et voilà. Donc, on propose on va dire des cours à l'ensemble de la communauté, hein, l'ensemble de la communauté, alhamdoulilah. Et les cours sont, surtout quand on est dans les mailles, c'est des cours qui sont, voilà, assez poussés, alhamdoulilah. Les élèves découvrent énormément de choses, se spécialisent. Et à la fin même des 2 années, hein, parce que les mailles, c'est un cursus sur 2 ans, eh bien, ils en redemandent encore. Ils veulent une troisième, pourquoi pas une quatrième année. Donc ça, c'est au niveau des formations qu'on a qui sont payantes. On a un deuxième volet dans l'institut qui sont, voilà, des interventions et des formations qui sont ouvertes à tout le monde. Donc on a ce qu'on appelle les Spitfire qui sont animés par moi-même. Spitfire, en fait, le concept, c'est un live. Et voilà, on aborde une thématique, les gens posent leurs questions, on essaie d'y répondre, d'accord? On essaie d'aborder des thématiques. Hein. Toutes ces thématiques-là, d'ailleurs, sont présentes sur notre chaîne YouTube. On a les cercles de lecture. Donc, on définit un livre à peu près 1 mois en avance et avec une date où on se donne rendez-vous, voilà, à la date anniversaire et on échange autour de ce livre. On a ce qu'on appelle My Conférence. Donc, ça, c'est les simples conférences qui sont présentes. Soit My Conférence, ou My Ramadan, soit les conférences pendant le mois de Ramadan. Donc, voilà, ça, c'est les activités, c'est vraiment ouvert à tous. On essaie d'en faire deux fois par mois, d'accord? Des fois, on en fait plus. Par exemple, là, ce mois de septembre est un mois qui est assez chargé, hein. On a deux interventions dans la semaine. Donc, alhamdoulilah, c'est... Bon, ça, c'est accès un peu, on va dire, à tout le monde. C'est quelque chose qui est accès à ouvert à tout le monde.
Ok. Donc vous avez, vous attirez des profils différents, donc débutants, entre guillemets débutants, voire et des personnes avec un niveau plus intermédiaire selon les besoins.
Exactement.
Très bien. Donc ça, c'est la
Exactement.
première activité sur laquelle
C'est la
tu
première activité
es.
qui est toujours d'actualité, alhamdoulilah. Et on vient d'ailleurs tout de suite de terminer, de clôturer les inscriptions pour cette rentrée de septembre.
Donc
Ensuite, la deuxième,
mydabs.net, pour ceux qui sont intéressés.
mydars.net, c'est exactement le site, ça. Mydars.net. Ensuite, la deuxième activité, c'est Sakina Consulting. Sakina Consulting qui, lui, alors, ça, c'est une idée qui était présente depuis un moment, depuis des années. C'est un cabinet. C'est un cabinet, mais un cabinet, on prétend, on espère, on s'est pas trompé dans ça, qu'on est les premiers en France à proposer ce type de service. C'est un cabinet qui accompagne les personnes dans leur projet, leur activité professionnelle ou associative, afin de les sensibiliser sur la conformité dans l'éthique. On essaie de proposer différentes formules. Donc, une valeur, c'est avant tout de sensibiliser, parce qu'on sait que la communauté a besoin d'être sensibilisée. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, ne se renseignent même pas sur la nature de leur activité, l'activité qu'ils mènent, sur la conformité. Est-ce que la nature, l'activité dans laquelle ils sont, est-ce qu'elle est licite? Est-ce que les process mis en place, le côté relationnel, est-ce que tout ça est éthique? Donc, en fait, il y a plein de domaines. Certains se disent, c'est bon, de toute façon, je suis dans tel ou tel domaine, je suis dans du commerce, bon, donc... J'ai pas besoin d'être accompagné ou autre, non. Donc, nous, on essaie de sensibiliser les gens sur l'importance de se renseigner sur la conformité de leur activité. On a aussi, parmi nos valeurs, on a l'accompagnement. Donc, on accompagne les gens à travers différents services que je vais peut-être présenter par la suite. On a le côté formation, parce qu'on veut vraiment former les gens. Et sensibiliser les gens passe par la formation. Il faut former les gens. Et voilà, on a aussi ce côté-là. Certification, on est très ambitieux, on souhaite lancer une sorte de certification, un peu comme les grandes certifications aujourd'hui connues dans la viande et autres, pour pouvoir, entre guillemets, délivrer, excusez-moi, un label à la personne qui aura bien, on va dire, coché toutes les cases, hein, et rempli toutes les conditions. Donc voilà, on est vraiment là, essayer d'aider les gens face aux défis, hein, auxquels ils font face en tant que professionnels musulmans. Voilà, que ce soit au niveau de la structure de la société, au niveau des pratiques commerciales, voilà, on est vraiment là dans ce côté-là. Le service qu'on essaie d'apporter, alors, pour que nos auditeurs et nos auditrices essaient de comprendre un peu, aujourd'hui, on a des cabinets de consultants qui sont présents, mais qui s'adressent uniquement à des grosses sociétés, de grosses structures, ça va être des grosses banques, ça va être des très grosses sociétés, qui, eux, au sein de leur société, ou bien de manière indépendante, ont des comités, des charrières à bord, hein, qui vont venir et qui vont être là et qui vont intervenir, d'accord? Mais l'entrepreneur, le monsieur tout le monde, aujourd'hui, il peine des fois à trouver des personnes qui puissent l'accompagner. Il peine à trouver des personnes habilitées, compétentes pour pouvoir répondre à ces questions qui, des fois, sont importantes pour pouvoir prendre une décision dans son activité. Aujourd'hui, des gens vont essayer d'envoyer des mails à gauche, à droite, sans pour autant avoir des réponses. Donc, ils peinent à trouver un cadre, un service qui est 100% personnalisé. Car au sein de Sakina, on propose que des services 100% personnalisés. Donc, les services qui sont proposés à un client ne sont pas forcément les mêmes qui sont proposés à un autre client. Donc, on essaie vraiment de proposer des services qui sont 100% personnalisés. Car encore une fois, l'activité de la personne A n'est pas la même que celle de, voilà, la personne B, et ainsi de suite. Donc, voilà, on a comment dirais-je, donc ce cabinet-là qui est composé de personnes qui sont avec nous, chefs de cabinet, avec des consultants qui sont diplômés, des docteurs, des experts, des personnes qui sont des auditeurs certifiés, des personnes qui sont diplômées en économie islamique, qui est beaucoup plus large que la finance islamique. Voilà, donc on propose différentes formules. On a des formules pour la personne qui a déjà lancé son activité. Donc nous, on souhaite avant tout, on le dit toujours, hein, on a cet adage, hein, qui est présent dans la jurisprudence, où on dit que al-hukm fara'un 'an tasawwur. Tu ne peux pas donner un statut sur une chose si tu ne connais pas la chose en soi. Donc à chaque fois, nous, on passe par un audit, on fait un audit sharia. Donc cet audit-là, où on va passer au peigne fin l'activité de la personne pour à la fin lui faire des recommandations et lui permettre d'améliorer service, hein, permettre d'améliorer voilà, le déroulement de son activité. À la fin à l'issue de cet audit, on lui fait aussi on lui propose des modules de formation 100% encore une fois personnalisés par rapport à son activité à lui. D'accord? La personne qui est dans le commerce, c'est pas le même statut que la personne qui fait de l'informatique, c'est pas le même statut que la personne qui a une autre activité, ainsi de suite. Donc, on essaie de proposer des formules, des modules de formation spécialement dédiés à son activité. Par exemple, on a une association qui, elle, était dans le domaine, par exemple, de la zakat. Eh bien, on lui a proposé, par exemple, des modules qui sont autour de la zakat, des modules sur les règles relatives aux maraudes. Hein, quelles sont les règles que nous devons respecter lorsqu'on a des maraudes à faire? Nos auditeurs et nos auditrices peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'on peut évoquer dans ce module-là, dans le titre des maraudes? On peut leur dire qu'il y a eu énormément, par exemple, d'erreurs qui ont été commises par des associations durant les maraudes, hein, car des fois, on reçoit des dons qui sont des fois des zakats, qui sont des fois des kafars, qui doivent être reversés à des musulmans uniquement. On ne peut pas reverser ça à des non-musulmans. D'accord? Donc, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Donc, on a ces modules qu'on va proposer et ensuite, on propose un accompagnement. C'est une hotline où la personne a accès à cette hotline 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et elle peut poser ces questions. Et voilà, on sait ô combien c'est important pour un entrepreneur que d'avoir une personne qui l'accompagne.
Ouais,
Qui est présent. Ça, on le retrouve
ça
même dans les
rassure.
textes. Hein. Ouais, on le retrouve même dans les textes, dans la démarche de nos pieux prédécesseurs qui, eux, agissaient ainsi. Certains d'entre eux, lorsqu'ils voyageaient, certains quand ils faisaient du commerce, eh bien, ils avaient à leur compagnie une personne qui était spécialisée dans la jurisprudence pour ne pas tomber dans l'interdit. Hein. Car celui qui ne fait pas attention prétend connaître, ne pas avoir besoin d'accompagnement, eh bien, généralement, ces personnes-là tombent dans des interdits. Ça, j'ai pu le tester à maintes reprises, hein, surtout quand on parle du chapitre de riba. Beaucoup pensent que le riba, l'usure, c'est prête-moi 1 000 euros à condition que je te prête 1 000 euros à condition que tu me rendes 1 500 euros. On pense que le riba, c'est uniquement dans ça, mais ce n'est pas du tout. Il y a d'autres formes de riba. Et c'est pour ça que si on n'est pas sensibilisé, si on n'apprend pas, hein, eh bien, on risquerait de tomber dans ces erreurs-là. D'accord? Donc, on a cette formule-là. On a la première où on va, à la fin, c'est la même, mais à la fin, il y aura la certification. Et on a une troisième formule. C'est les trois formules qu'on a de base. Donc, on a appelé ça Kinda Confort, qui, elle, va permettre d'accompagner ceux qui se lancent. On a des gens qui ont déjà lancé leur activité, mais ceux qui se lancent, on les accompagne dans chaque étape du lancement et même par la suite. Donc, elle a aussi des formations, elle a aussi accès à la hotline. D'accord? Mais le début est important, surtout quand on se lance, voilà, de s'assurer qu'à chaque pas qu'on fait, eh bien, on soit en conformité.
Très bien.
Voilà. Donc voilà, on offre la possibilité aux gens de faire un call. Ils ont un call de 30 minutes qui est offert et puis on peut échanger autour de leur activité et de leur proposer le service qui est adapté. Et ça, je le dis encore une
OK.
fois, pour monsieur tout le monde, c'est pas quelque chose qui est... Je n'ai pas connaissance, moi, aujourd'hui, un cabinet français, voilà, francophone, qui propose ce service.
OK. Très bien. Bon, bah pour les intéressés, ceux qui sont porteurs de projets ou qui ont des entreprises et qui se posent des questions, vous savez maintenant à qui demander. Adala, du coup, tu as mentionné deux de tes activités. Il en reste une troisième, il me semble.
Et là, c'est une troisième. Ben, donc, ça qui est consulting, c'est aussi toujours d'actualité. Et la troisième qui est toujours d'actualité, ça, c'est l'activité, on va dire, physique que j'ai ici à la Mecque actuellement. Donc, je suis à la tête d'une équipe de quatre traducteurs. Et on a pour charge de traduire la traduction des sermons de la mosquée sacrée. Donc, les sermons du vendredi de la mosquée sacrée à la Mecque. C'est nous qui nous chargeons de la traduction et les Français, tout le monde, hein, ceux qui sont francophones, ont la possibilité via une application, Manarat al-Haramain, l'application qui a été mise en place par la mosquée sacrée, par l'administration de la mosquée sacrée, où vous avez la possibilité d'écouter le sermon du vendredi en live, en français. Quand en
Ok.
live, c'est vraiment en live,
C'est pas très
c'est-à-dire.
connu ça. Hein. Enfin, j'en avais entendu
Ouais,
parler quand
ben.
j'étais arrivé à Médine, j'avais
Ouais.
entendu parler de ça.
Ouais.
À la Mecque, pas trop. Alors comment on
À la
fait
Mecque,
pour
voilà.
trouver ça?
Bah, ça, alors, via l'application, on télécharge une application qui s'appelle Manarat al-Haramain. Et une fois qu'on télécharge cette application-là, eh bien, voilà, directement, on a le replay aussi, hein, de la khutba, et on a d'autres cours aussi qu'on a traduits. Mais voilà, l'activité principale, ça va être vraiment la traduction de la khutba. La traduction de la khutba, donc des imams qui sont connus, hein, que tout le monde connaît aujourd'hui, des grandes mosquées. Donc, on
Ouais.
traduit en simultané. Moi, je suis responsable de cette équipe composée de quatre traducteurs de l'équipe française.
Donc
Dans les bureaux, on est plus de 10 langues, hein, plus de 10 langues. La khutba, elle est traduite chaque vendredi en plus de 10 langues et en live à chaque fois.
les gens
C'est...
écoutent aussi depuis l'étranger ou beaucoup de
Depuis
pays à l'étranger?
l'étranger, ah oui. Alors là, on a tout. On a à la fois, depuis l'étranger via l'application, on a aussi une chaîne radio ici, 92.2, si je ne me trompe pas, mais elle est locale, hein. C'est, voilà, on a une radio où vous entendez tout au long de la journée du français, enfin, des cours en français, la traduction des khutbas, des livres en français, et ainsi de suite. Donc, il y a un contenu qui est diffusé et rediffusé. Donc, ça, c'est la chaîne au niveau de la radio. Et on a aussi la possibilité d'écouter directement quand on est présent sur les lieux. Donc, il y a une équipe, voilà, on va dire de terrain, hein, qui, elle, va vous distribuer des écouteurs et vous permettre d'écouter la khutba si vous êtes présent à la Mecque.
Où est-ce qu'on les retrouve?
Alors, eux, on les retrouve, ceux-là, à l'entrée, à la porte, pour ceux qui vont à la Mecque, à la porte Malik Fahd, qui est la porte 79, si je ne me trompe pas, oui, la porte 79. Quand vous entrez à la porte principale du roi Fahd, eh bien, à gauche, à droite, tout de suite, vous trouvez des personnes avec des petits gilets, des gilets bleu ciel. Et ça, eux, ils sont chargés de, voilà, du côté, la logistique, on va dire, côté pratique, de vous orienter. Et on a des personnes qui parlent français sur le terrain, des personnes qui parlent les 10 langues. Vous avez les 10 langues. Les 10 langues. Et ils sont présents. Et voilà, ils aident. Et nous, on est l'équipe qui est dans les studios, dans les bureaux, et on traduit les repas.
Ok, très bien. Donc les khutbas sont écrites, sont fournies à l'avance pour que vous puissiez les traduire.
Oui, généralement, c'est 48 heures à l'avance. Hein. Des fois, c'est moins, des fois, c'est juste 100% live. Mais voilà. Mais généralement, on les reçoit un petit peu à l'avance.
D'accord.
Généralement, c'est un petit
Ok.
peu à l'avance.
Donc ça va faire
Ouais.
voilà, depuis 2003, il me semble, hein, tu disais que tu vis à la Mecque.
2004, on a mec
2004,
2004.
donc 19 ans
Ouais,
là, près de 19 ans.
exactement.
D'accord.
Exactement. Ouais,
Comment
exactement.
ça fait quoi de vivre à la Mecque quotidien, d'être là-bas au quotidien? Ça ressemble à quoi la vie? Parce que quand les gens qui ont l'occasion d'y aller, c'est pour des Omra ou le Hajj.
Après, c'est sûr, quand on vit en Omra, c'est pas comme quand on vit là-bas. Hein. Mais quoi
Ouais.
qu'il arrive, c'est sûr que voilà, si certains de nos auditeurs ou nos auditrices qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'ont jamais fait la Omra, eh bien, on peut leur dire que vous êtes passé à côté de quelque chose qui est énorme. Voilà. Là, vous terminez le podcast et vous venez en Omra. Donc, c'est quelque chose à ne vraiment. C'est vraiment ce voyage-là, le voyage de la vie, qui va permettre aux gens comment dirais-je, de se remettre en question, de remettre de l'ordre dans les priorités. La Omra permet de remettre de l'ordre, d'apporter une nouvelle vision à la vie. Tu sais, des fois, on avait une vision qui était, des fois, qui était même erronée. Hein. Mais quand on voit la Omra, c'est comme si on est venu dans un lieu qui nous a permis, d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux et de voir en fait la vie sous un autre angle et d'accorder voilà de revoir nos priorités. Donc ça c'est la Omra de manière générale quand on vient en Omra. Après la vie c'est sûr c'est pas pareil mais alhamdoulillah voilà la vie alhamdoulillah moi je me plais, je suis dans ma petite bulle, je suis à la Mecque.
Puis
Bon
tu vas en voiture
je
à
suis prêt.
pied.
Alors moi je suis assez loin de la mosquée sacrée. Et la
Ouais.
Mecque, enfin, le gros inconvénient de la Mecque par rapport à Médine, c'est que nous, on n'a pas de parking. D'accord? Donc, nous, on est obligé d'aller en voiture, de se rapprocher, ensuite prendre les taxis. C'est-à-dire que nous, on fait comme les pèlerins, on prend les taxis comme les pèlerins pour se rendre à la
Ouais.
mosquée sacrée. À Médine, ils ont des parkings souterrains.
Et
Ça, déjà, ça.
les bureaux
Les
de
bureaux,
travail.
ils sont à la mosquée sacrée, juste à l'extérieur, en face de la Grande Tour, juste au pied de la Grande Tour, à côté.
D'accord,
Au
donc
pied de
tu peux descendre à
l'horloge, là aussi,
pied.
là. Oui, alhamdoulillah, par rapport à nous, à ça, alhamdoulillah, on a un accès, voilà. On va dire, on a un accès qui
Accès privé.
est privé, voilà. Alhamdoulillah. Ça, c'est une ni'ma, ça, c'est
Ouais.
une.
Non, ça c'est génial. Franchement, c'est.
Ah oui,
Ça
ah, ça, c'est
d'avoir
l'Eden.
le rythme de vie doit être incroyable à chaque fois l'Eden descendre juste à côté.
Ah oui,
En plus,
c'est
surtout
sûr,
les
c'est sûr.
périodes où il y a moins de monde, ça doit être vous devez vous
Ouais,
sentir
alors avant, on avait des périodes, hein. Maintenant, c'est plus le cas. Mais avant, je me rappelle, moi, avant, on avait des périodes après la Omra et après le Hajj aussi, mais c'était plus après la Omra. On avait cette période battante où il n'y avait pas de Omra, c'est-à-dire pas de Omra de personnes qui viennent de l'étranger et pas de visa dans le temps. C'était magnifique, hein. La mosquée sacrée. Imagine-toi, la mosquée sacrée. On s'est retrouvé à faire des tawaf où on était une cinquantaine de personnes. Ça,
Wow.
c'est, ouais. Ça, c'est, voilà. C'était des périodes où, voilà. Mais ça y est, c'est fini. Ça.
C'est
Maintenant,
fini.
ah oui,
Après.
c'est les Omra 24 heures sur 24. Maintenant, ils ont ouvert les vannes là maintenant. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Ça, on a perdu, nous, ce côté-là, parce que c'était connu, hein. Nous, on avait 2 mois, c'était les 2 mois où c'était, voilà, c'était les 2 mois pour les gens de la Mecque. Tu voyais que les gens de la Mecque qui venaient, on était là, ils venaient en famille, on passait du moment à la mosquée sacrée, c'était vide. Les étages, ils étaient éteints, les lumières étaient éteintes aux étages, tu vois, il n'y avait que le rez-de-chaussée qui était allumé, parce qu'il n'y avait pas besoin, vu que c'était, elle était vide, la mosquée, en fait. Elle était vide. Là, c'était vraiment avant, ça. Je te parle là de 2004, 2005, 2006, dans ces zones-là où c'était, où il y avait cette période-là.
Mais
Mais après, alhamdoulillah,
même après,
ça m'a
pendant le
pas.
moment, c'était même jusqu'à maintenant, ils ouvrent pas, ils ouvrent directement après la Hedge.
Alors là, oui, il y a toujours une. Alors là, ils vont ouvrir 2 semaines. Là, par exemple, cette année-là, ils ont ouvert 2 semaines, 3 semaines. Mais là, je te parle d'avant, c'était 2 mois et demi. Pendant 2 mois et demi, il n'y a
D'accord.
personne qui met un pied ici à la Mecque, de l'étranger, je
D'accord.
parle. En
Maintenant,
visa,
c'est
en
réduit à
mara.
2-3 semaines pour les locaux.
Maintenant, c'est déjà vraiment à 2, 3 semaines. Là, ils ont rouvert rapidement après le Hajj, cette année.
Ouais. D'accord. Bon, c'est déjà ça, 2-3 semaines,
Ouais,
tu vois.
alhamdoulilah. Après, voilà, nous, on a pu remarquer que cette année, il y a eu un engouement, hein, au niveau de la communauté française. C'est l'année 2023, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel en nombre de pèlerins, de Mu'tamir qui sont venus.
Ah ouais.
C'était vraiment, ah
Il y a
oui,
eu pas
il y a
mal
eu
de
un
doutes par rapport à
engouement.
l'organisation et finalement, il me semble que
Alors
ça.
moi, je parle pas du Hajj, hein, je parle pas du Hajj, je parle de la Omra tout au long de
Oui,
l'année.
d'accord.
Il y a eu un engouement fou en France, que les gens, énormément de gens sont venus, énormément de gens. Et c'est bien,
Ouais.
c'est très bien que les gens viennent, parce que comme je le dis, moi, je le dis toujours, le Omra, c'est le voyage de la vie, c'est le voyage
Ouais.
qu'il faut faire, hein, qui
Ça a été
préparation en fait.
simplifié, les visas sont beaucoup plus simples à
En
avoir, on a
plus,
tout passé par une
alhamdoulilah,
agence.
et ça, faut profiter de cette occasion-là. Profiter.
Ouais.
Parce que dernièrement,
Mais...
on l'a, hein, quand elle est là, mais après, on ne sait pas combien de temps ça dure.
Exactement, là, le Covid nous
Donc,
a bien montré ça.
exactement. Les occasions, elles se présentent. Il faut savoir prendre les occasions au bon moment.
Ouais. Très bien. Bah écoute, Adallah, on va terminer sur les questions de la fin. C'est bientôt l'heure
Pas
de
de
la
soucis.
prière ici. En plus, je suis à la mosquée, donc il risque de faire l'Eden. Donc on va essayer de
Inch'Allah.
terminer avant pour pas être interrompu.
Pas de soucis.
Alors, première question, quelle est la compétence qui t'est le plus utile au travail dans la
Quel
vie de tous les
travail.
jours? Dans tous tes travaux, dans la compétence qui est le plus utile de manière générale.
Que j'ai pu bah moi, je veux dire la jurisprudence, hein, ma spécialité dans laquelle je suis.
Jurisprudence,
La
c'est ce que tu utilises
ouais.
tous les jours.
La jurisprudence, c'est vraiment quelque chose que ça va être présent tous les jours, que ce soit dans chez Miners, donc au travers des cours, que ce soit à Sakina, à travers l'analyse de la conformité de, voilà, différentes, et que ce soit aussi au même dans la traduction, parce qu'on est confronté à cela dans la traduction. Donc vraiment, le côté de la jurisprudence, et moi, j'encourage à chaque fois, hein, mes camarades de classe, de prendre toujours la spécialité de la jurisprudence, parce que c'est une spécialité qui est très large, très vaste. Donc, on va dire, c'est ce que j'utilise tous les jours, hein. Sans parler de la langue arabe, bien sûr. La langue arabe, c'est quelque chose.
La jurisprudence, ça inclut Ossoul aussi?
Alors, pas vraiment. Au sol, le faire, c'est à part. Au fond,
C'est
les
aussi.
fondements, c'est ce qu'on appelle les fondements de la jurisprudence. Ça, c'est
T'as
à
dû les
part,
étudier,
maintenant.
j'imagine,
Bien
toutes
sûr,
ces années.
on est obligé de les étudier, bien
Forcément.
sûr. Bien
Ouais.
sûr. Dans la faculté dans laquelle on est, on a ces deux spécialités. Nous, celle-là, on a le plus 2 heures. Donc, au sol, le faire, les fondements de la jurisprudence, et le faire, la jurisprudence en soi.
Très bien. Qu'est-ce que tu préfères dans ton cadre de vie, dans ton travail, dans tout ce que tu fais? C'est quoi que tu préfères?
L'enseignement.
L'enseignement.
Ah oui.
Clair, simple.
Ah oui.
Tu aimes
Sans.
partager.
Voilà. L'enseignement. Voilà.
Quelles sont tes routines préférées? Les routines qui t'aident à aller te reprendre ton énergie, être en forme au
Ah,
quotidien, évoluer?
la prière Fajr en groupe à la mosquée, et la lecture du Coran juste après. Ça c'est la chose qui
C'est ta routine clé, phare.
ah oui, ça me pousse la journée. Si j'ai
Ouais.
pas fait ça, j'ai l'impression que j'ai perdu ma journée.
Très bien. Est-ce que tu as une recommandation de livre, de référence qui t'a particulièrement marqué? Peut-être que tu as lu récemment ou bien qui t'a marqué à l'époque, un petit moment.
Les ouvrages de Ibn Qayyim. Je peux conseiller nos auditeurs, aujourd'hui ils sont traduits en français, allez dans les librairies, les ouvrages d'Ibn Qayyim sont magnifiques.
Il y en a un en
Ils sont magnifiques.
particulier que tu préfères.
Zad al-Ma'ad.
En
Zad
français, il y a
al-Ma'ad en
un.
français. Il l'appelle comme ça, il l'appelle Zad al-Ma'ad, mais c'est les provisions pour l'au-delà. La traduction, c'est la provision pour l'au-delà, mais en français, il l'appelle Zad al-Ma'ad. Zad
Ok.
al-Ma'ad, il est très bien. Je dis ça comme ça à chaud, hein. Bien
Ouais,
sûr, c'est question,
non,
je ne m'attendais pas que
c'est
tu me
très
poses, mais
bien.
je te dis comme
Non,
ça.
c'est
Les
bien,
choses qui
comme
me viennent
ça.
maintenant, c'est vraiment
C'est
Zad
bien.
al-Ma'ad.
C'est ce qu'on veut, la spontanéité.
Exactement.
Et enfin, dernière question, Adallah. Si un auditeur ou une auditrice souhaite suivre ton travail ou bien s'ils ont une question à te poser par rapport à ce dont on a parlé, est-ce que c'est possible et comment?
Ah oui, c'est possible. Donc, au niveau de l'institut, donc via la Maïdas.net, hein, ils peuvent aussi interagir avec nous via la messagerie instantanée qui est présente sur le site. Sakina Consulting, pareil. Donc, Sakina Consulting.
mettrai le lien.
point,
Ouais.
point net, c'est point com, excusez-moi, c'est ça qui est consulting, c'est point com. Donc, pareil, ils peuvent entrer en contact avec nous. Et à la Mecque, et à la Mecque, ben, à la Mecque, j'aurais dit, on se croise dans la mosquée sacrée, inch'Allah. À la Mecque, par rapport à ça, ben, on a la plateforme, hein, la plateforme Manarat al-Harami pour écouter les khutbahs. C'est une application qui est présente sur Android
Très bien.
et sur Apple Store.
Je mettrai tous les liens, Inch'Allah. Là, c'était un plaisir de discuter avec toi. Mais écoute, je ne
Avec
manquerai pas de venir te voir, Inch'Allah, si j'ai l'occasion,
plaisir.
si Dieu me permet de pouvoir visiter la Mecque, ce lieu sacré. Je demande à Dieu qu'il te mette la baraka dans tes projets, dans tes différents
Inch'Allah.
projets, dans ce que tu essayes
Amin.
d'accomplir et
Amin.
qu'il te facilite au quotidien.
Barak, c'est moi qui te remercie, hein, encore une fois de me donner ce micro et cette audience, hein, pour m'adresser à mes frères et mes sœurs. Et puis voilà, et puis on a essayé de partager certains passages de nos vies. L'essentiel, c'est avant tout, voilà, c'est tirer des leçons et d'aller vers l'avant, se remettre toujours à Allah Azza wa Jal. Et puis voilà, c'est un plaisir partagé. Qu'Allah Azza wa Jal te récompense, et te permet de continuer dans cette voie et d'interroger encore d'autres personnes. Des profils différents.
Très compensé d'Allah. À très vite, Inch'Allah.
Barakallah.
Salam
À très
alaikum.
vite. Waalaikum salam wa rahmatullah.
Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.